Chapitre 3. Sans hésiter, Yuna tire deux balles à la suite. La double décharge le frappe à la poitrine comme un battement de cœur supplémentaire. Il a juste le temps de voir les projectiles s'enfoncer dans le front de la silhouette de tir, faisant voler des éclats de carton autour des trous d'entrée. Il court accroupi, puis passe sous un écran de contreplaqué. Il aperçoit une nouvelle silhouette derrière un filet en plastique jaune vif, s'agenouille et tire. Cette fois, la balle atteint le cercle rouge au centre de la cible. À l'ombre du conteneur rouillé, le sol est humide. Des douilles brillent dans le gravier. Il suit la trajectoire peinte au sol, contourne deux bidons en plastique remplis de sable, range son arme dans son étui et traîne le lourd mannequin d'entraînement pour le mettre à l'abri derrière une voiture de police. Il abat la dernière silhouette d'une balle dans le triangle rouge en plein centre du front. Un nuage de poussière de papier flotte encore dans la lumière du soleil. Yuna sécurise son arme et la remet dans son étui. Sans raison apparente, il pense à son père, policier lui aussi, tué en service. À l'époque, Yuna n'avait que 11 ans, mais la perte de son père l'a touché comme un éclat, un prisme qui a brisé la lumière et l'a fait changer de direction. Elle a probablement contribué à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a consacré toute sa vie d'adulte à essayer de rendre le monde plus sûr, d'abord dans l'armée, puis dans la police. Une mission qu'il a poursuivie sans relâche, sans jamais tenir compte de l'impact qu'elle pouvait avoir sur lui. Il n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'il a laissé derrière lui une traînée de morts, un champ de bataille où de plus en plus de corbeaux se rassemblent pour déchiqueter les cadavres. Yuna sait qu'il ne sert à rien de regarder en arrière, mais lorsqu'il se retrouve seul, il lui est de plus en plus difficile de s'en empêcher. Il réalise qu'il ne supporte plus la solitude. Valeria lui manque déjà, et la douleur de l'absence de sa fille, Lumi, le ronge. Et si, quand on lui pose la question, il répond toujours qu'il préfère travailler en solo, il sait au fond de lui qu'il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Il souhaiterait que Saga Bauer puisse s'occuper cette place. Elle est comme une sœur. Ils se complètent parfaitement. Saga est une femme brillante, mais complexe. Elle a aussi besoin de lui, même si elle refuse de l'admettre. Elle est trop fière, trop indépendante. Comme lui. Lorsqu'il sait qu'il a raison, il est incapable de céder, de reculer, quel que soit le prix à payer. Yuna époussette ses vêtements, vérifie son temps, puis se dirige vers le champ de tir suivant lorsque son téléphone se met à sonner. C'est la procureure Lisette Josephson. Ils échangent quelques mots pendant qu'il prend la direction du parking. 5 minutes plus tard, il a quitté les locaux de l'unité d'intervention nationale de Thurnthorpe, où il s'entraîne au tir dynamique dès qu'il en trouve le temps. Lisette lui a expliqué qu'en vertu du chapitre 24, paragraphe 2 du Code de procédure pénale qui régit la convocation des témoins, elle a pris la décision cette nuit de placer en détention un jeune homme de 17 ans, faute d'avoir pu établir son identité. Ce matin, il a été identifié comme étant Hugo Sand, inscrit à l'état civil à Egersten. Il ne figure dans aucun des fichiers de la police ou des services sociaux, mais il est désormais suspecté d'un meurtre à la hache particulièrement violent. La victime, retrouvée dans une caravane, s'appelait Josef Lindgren. Il avait 31 ans, était enseignant à l'école anglaise et vivait dans une maison mitoyenne à Tumba avec son épouse Yasmine et leur enfant en bas âge. La procureure a demandé à Yuna Lina de l'assister lors du premier interrogatoire de Hugo Sand, qui aura lieu en présence d'un tuteur légal et de l'avocat de la défense. Yuna Lina est inspecteur principal à la NOA, la section opérationnelle de la police suédoise à Stockholm. C'est un expert des tueurs en série, et il a résolu plus de meurtres complexes que n'importe quel autre enquêteur en Europe du Nord. Avant de devenir policier, il a servi dans les forces spéciales de l'armée et a été formé aux combats rapprochés non conventionnels et aux armes de pointe par le lieutenant Rinus Advocaat aux Pays-Bas. Dans la salle d'interrogatoire sans fenêtre, l'avocat et le père du suspect, Bernard Sand, sont assis d'un côté de la table en pain verni. Yona note que le père semble calme. Il a le dos droit et ses mains reposent sur ses genoux. Il est rasé de près, ses cheveux parsemés de quelques mèches grises sont soigneusement coiffés en arrière et ses yeux sont vifs et attentifs. Yona et Lisette Josephson sont installées face à eux. Elle a des cheveux blonds bien brossés, la mâchoire inférieure légèrement proéminente et un regard sévère. Elle porte un pantalon en cuir marron et un pull en cachemire couleur noisette. Son manteau plié repose sur l'accoudoir de la chaise vide à côté d'elle. Yona feuillette une nouvelle fois les photos prises par les experts judiciaires à l'intérieur de la caravane, s'arrête un instant et se perd dans l'image de la chambre où le suspect a été retrouvé. La hache est posée sur le lit et sa lame luisante repose sur l'oreiller, comme si elle avait poussé le jeune homme par terre avant d'occuper la place. Il y a des traces de pas et de mains ensanglantées un peu partout. De longues traînées sombres, des éclaboussures de sang plus clair en haut sur le mur et une grande mare sur le sol dans laquelle gît un bras tranché. L'empreinte d'une épaule s'y dessine nettement. Un bref coup retentit à la porte, puis Hugo Sand est introduit par un surveillant pénitentiaire qui prend place sur une chaise près de la porte. Hugo s'assied entre son père et son avocat. Le vert de sa tenue carcérale rend son teint blafard et accentue les cernes sombres sous ses yeux. Lorsqu'il commence à se ronger l'ongle du pouce, son père prend doucement sa main et la ramène sur la table. Après les formalités habituelles, la procureure salue tout le monde et annonce qu'ils suivront les directives du procureur général concernant les mineurs. C'est pour ça que nous avons attendu avant d'entamer les interrogatoires. Il fallait que tu aies un avocat, Hugo, dit Lisette.
Ok, murmure-t-il.
Une odeur de lotion après rasage flotte dans l'air lorsque l'avocat de Hugo verse de l'eau dans des gobelets en papier et dénoue légèrement sa cravate.
On commence ? Demande Lisette, jetant un rapide coup d'œil au dossier posé devant elle avant de relever les yeux.
Après un appel pour un cambriolage au camping de Bredeng, Hugo Sand a été arrêté par les premiers policiers arrivés sur les lieux à 3h15 ce matin, commence-t-elle d'une voix neutre. Les techniciens ont relevé la présence du sang de la victime sur Hugo et ses empreintes sur la scène du crime. L'avocat se penche en avant et se racle la gorge.
Mon client ne nie pas qu'il se trouvait dans la caravane quand ses empreintes sont sur l'arme du crime.
L'interrompt Lisette.
« Attendez, » dit Hugo d'une voix faible. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé quand un policier a tiré par terre devant moi. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais là.
Mon client est diagnostiqué somnambule, et tout cela est parfaitement documenté, » explique l'avocat en ouvrant son porte-document.
« Somnambule ?» demande Lisette.
Nous avons une liste d'endroits où Hugo s'est réveillé, entre autres dans le métro, dans une barque sur le lac Mellaren, dans un salon de massage thaïlandais.
Yona, tu prends le relais ?
Demande-t-elle d'une voix hésitante.
Que faisais-tu hier soir ? Demande Yona en fixant le garçon.
Hugo se tourne vers son avocat, reçoit un hochement de tête presque imperceptible, puis croise de nouveau le regard de Yona.
« Rien, »
répond-il.
« On a dîné ensemble vers 19h, » répond Bernard.
« Et après ?»«
J'étais dans ma chambre avec ma copine, » dit Hugo en haussant les épaules.
« Combien de temps est-elle restée ?»«
Elle est partie vers 23h. »«
Et toi, quand es-tu allée te coucher ?»«
Je sais pas trop, » répond-il. « J'ai écouté de la musique, je me suis endormi vers minuit. »
Hugo tire sur le col de son t-shirt de prison. « Tu fais souvent des crises de somnambulisme ?» demande Yuna.
« Une fois par mois en moyenne, je dirais. Sauf quand je suis en période de crise. Là, c'est presque toutes les nuits. »
« Et ces périodes de crise, elles arrivent à quelle fréquence ?»«
Assez rarement maintenant. Peut-être tous les 2 ans.
répond Hugo en buvant un peu d'eau dans le gobelet. Yuna entend Lisette noter quelque chose dans son dossier.
Et combien de temps durent ces crises ?
3 mois au maximum. Je sais pas. C'est assez pénible pour tout le monde autour de moi, répond Hugo.
Tu sais ce qui déclenche ton somnambulisme ? Demande Yuna.
Si vous parlez des crises, on n'a pas observé de schéma précis, répond le père.
J'ai une parasomnie appelée TCSP. Ça veut dire trouble du comportement en sommeil paradoxal, explique Hugo.
Tu rêves pendant ton somnambulisme, c'est ça ? Demande Yuna.
Hugo hoche la tête puis met ses cheveux longs derrière ses oreilles. Il a des petites cicatrices de piercing au bas de la lèvre, sur l'aile du nez et le long du lobe de l'oreille.
Mon médecin appelle ça des rêves de catastrophe.
Quelle sorte de rêve de catastrophe fais-tu ? Questionne Yuna en se penchant en avant sur la table.
Je sais pas, je m'en souviens presque pas. Mais j'ai peur et la plupart du temps je dois fuir ou me cacher.
Qui est ton médecin ?
Lars Grint, à la clinique du sommeil d'Uppsala, répond Bernard.
Yuna tourne de nouveau son regard vers Hugo. Le jeune garçon est pâle, maigre. Il a le visage d'un jeune prince de conte de fées, mais avec des yeux fatigués, bordés de rouge, et les lèvres sèches.
Est-ce que tu dirais que tu peux faire les mêmes choses qu'une personne éveillée quand tu es somnambule ?
Nous préférons ne pas répondre à cette question, intervient l'avocat.
Non, ça va. Je peux expliquer comment ça se passe pour moi. Ça ne changera rien, dit Hugo en se tournant vers Yuna. Par exemple, quand j'ai une crise de somnambulisme, je peux taper mon code sur mon téléphone et appeler des gens. Mais quand ils répondent, je parle apparemment de manière totalement incohérente.
Quand as-tu commencé à souffrir de somnambulisme ? Demande Yuna.
Je sais pas, j'étais petit.
Il a toujours fait ça.
Mais quand il a eu 6 ans, on a demandé de l'aide pour la première fois, dit Bernard d'une voix basse.
Pourquoi ?
Hugo s'est réveillé au beau milieu d'une grande route parce qu'un camion a klaxonné et a dû freiner brusquement. Il était sorti du lit, avait descendu les escaliers, ouvert la porte d'entrée et marché presque 2 kilomètres.
Hugo sourit d'un air désolé, mais redevient sérieux lorsqu'il croise le regard de Yuna.
Combien de fois t'es-tu réveillé dans des endroits inconnus ?
Assez souvent.
Est-ce que tu sais où tu te trouves quand tu te réveilles ?
Ça dépend.
Tu es déjà allé au camping de Bredeng ? Demande Yuna en maintenant son regard fixé sur Hugo.
Oui, quand j'étais plus jeune, j'y allais toujours avec mes amis. J'y ai emmené des filles parfois. J'ai fumé du hash.
Ça, tu ne nous l'as jamais dit, interrompt Bernard.
Et alors ? Marmonne Hugo.
Comme je comprends les choses, les somnambules gardent souvent leurs yeux ouverts.
C'est ton cas ?
Interroge Yuna.
Oui, c'est son cas, dit Bernard à la place de Hugo.
Tu te souviens de ce que tu vois, Hugo ?
Non.
Alors tu ne sais pas si tu as tué l'homme dans la caravane ? Demande Yuna.